mon podcast sur la commode. Une émission proposée par la scène nationale de Bourg-en-Bresse pour aller à la rencontre de celles et ceux qui rendent le spectacle vivant. À l'ouverture des tiroirs, Claire, Gaëlle, Julie et Lisiane. Ouvrez vos écoutilles, laissez-vous guider. On entre dans les coulisses. En ce mois de mars, nous mettons doublement l'accent sur les femmes. Par notre thématique héroïne, qui court depuis janvier, et nous invite à regarder des figures féminines inspirantes. Et par notre programmation, car sur 7 spectacles accueillis ce mois-ci, 6 sont l'œuvre de femmes. C'est donc l'une d'entre elles que nous sommes allées interroger. Sandrine Anglade, metteuse en scène d'Un piano dans la montagne, une version concentrée de Carmen. Au micro de Claire, Sandrine nous raconte son travail, sa vision du théâtre et de cette œuvre emblématique.
Bonjour Sandrine Anglade.
Bonjour.
Vous êtes metteuse en scène et directrice artistique de la compagnie que vous avez créée et qui porte votre nom. Vous avez présenté en mars une Carmen intitulée Un piano sur la montagne, à la fois drôle et sensible, qui a enthousiasmé littéralement la salle. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre compagnie et votre travail ?
Alors, ma compagnie, c'est une compagnie de théâtre, mais qui fait la part belle à la musique. La musique, je ne conçois pas le théâtre sans la musique. Je ne conçois pas la vie sans la musique. En fait, à la compagnie, on développe des spectacles qui sont des spectacles d'une part grand format, autour de textes, principalement de textes de répertoire, qui sont des textes un peu revisités. J'ai développé aussi dans le cadre de la compagnie depuis peu ce que j'ai appelé un laboratoire citoyen, à savoir comment on peut se servir du théâtre aussi comme d'un outil pour aller hors les murs, à la rencontre d'autres publics. De plus en plus, ce qui m'importe dans le cadre de cette compagnie, c'est de penser la relation avec le public, d'être le plus en proximité en fait avec nos publics. Et je pense que notre 19e siècle nous a beaucoup abîmés en nous racontant cette histoire de quatrième mur. Et je crois que le quatrième mur n'existe pas. Ce qui existe au théâtre, c'est la relation entre des artistes interprètes et un public, des spectateurs. En fait, on co-construit, on fabrique ensemble un imaginaire.
Nous avons accueilli les saisons précédentes, La Tempête et Le Cid. Vous venez de parler de répertoire. Que trouvez-vous dans ces grands textes classiques ou ces auteurs classiques qui vous inspirent ? Qu'est-ce qui vous donne envie de monter ces textes-là ?
Alors, il y a d'abord une chose importante, de toute façon, c'est que ces grands textes classiques, on peut s'y replonger. Ils sont tellement extraordinaires et emplis de sens qu'on peut les revisiter et ne jamais finir de les explorer. Et puis, je crois qu'en fait, ce qui m'anime dans les choix des textes, c'est aussi que... À l'intérieur de ces textes, il y a toujours des personnages qui sont porteurs d'une philosophie, d'un certain rapport à la vie. Ce qui m'a animée dans Le Cid, c'était, moi, en tant que femme, ce personnage de Chimène, qui devient, au fur et à mesure de l'œuvre, et malgré elle, en fait, un personnage politique, une figure féministe, et je trouve même plus loin, de quelqu'un qui met en avant une notion complètement nouvelle qui est la notion de justice sociale, par opposition à la justice royale ou la justice de l'honneur, des codes un peu ancestraux. Comment elle, finalement, elle est porteuse d'une parole extrêmement moderne. Et dans La Tempête, par exemple, ce qui va me guider, c'est aussi toute une approche philosophique de l'œuvre, un peu aussi comme dans Carmen. Ce qui est toujours bouleversant au théâtre, c'est de voir des personnages qui se transforment sous nos yeux. Dans La Tempête, ce qui m'a passionnée, c'est comment un homme qui est complètement pris dans la violence, dans un désir de vengeance, tout d'un coup prend conscience par le théâtre, qu'il s'est trompé, Et cette transformation en fait du personnage, je trouve que c'est ça que le théâtre aussi nous donne à voir. On se réunit pour voir comment l'homme est capable du pire et du meilleur.
Et alors Carmen, en quoi le personnage de Carmen incarne encore aujourd'hui une figure inspirante et en plus à l'époque dans laquelle on est un peu en recherche de figures féminines fortes.
J'adore cette œuvre en fait. Je ne le redis jamais assez combien la musique me porte et combien la musique je la conçois dans n'importe quelle œuvre comme un personnage essentiel parce que c'est Barenboim qui dit la musique éveille le temps. La musique c'est le rapport au temps et le théâtre c'est vraiment le temps et l'espace. Et la musique écrit, la musique écrit le temps. Et moi, j'avais très envie de m'atteler à cette œuvre magnifique et Carmen, et aussi de m'y atteler parce que c'était une œuvre tellement connue et de se dire, bah, tiens, c'est tellement connu que est-ce qu'on la connaît vraiment ? Je pense que le problème des grandes œuvres aussi, comme Carmen, et on met ça un peu dans le sac tout le temps de la tradition, des attendus. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, on est très emprunt dans notre société, même moi, même nous autres femmes, de principes, de manières de vivre qui sont très marquées par le patriarcat, que finalement on ne sait pas, culturellement, on ne sait pas penser autrement. On croit le savoir, c'est-à-dire qu'on est capable d'émettre des idées, d'émettre tout d'un coup des positions qui sont, somme toute, en tout cas pour ma part, hein, très, très conceptuelles, très intellectuelles. Et j'ai du mal parfois à me saisir de cette approche féminine dans mon corps, dans mes émotions, dans mes relations profondes. Et en fait, je me suis rendu compte combien ce personnage de Carmen, on disait, ah bah oui, c'est une femme libre. Alors derrière cette femme libre, bien souvent, on voit c'est la pute, quoi. Et en fait, elle est au-delà d'être... Enfin, que cette liberté qu'elle revendique, c'est une liberté de son désir. C'est le droit vraiment à l'autodétermination de son érotisme. La femme a un corps à elle. Et que notre corps à nous, femme, c'est encore un territoire occupé. Et malgré tout, même si on essaye de le dire, on est quand même très très marqué par cette société, d'un certain système, manière de fonctionner, qui fait que nous-mêmes, on ne se rend plus compte. Et moi, ce qui me plaisait de défendre ce personnage de Carmen, c'est-à-dire d'essayer d'aller écouter au plus près ce qu'elle nous dit. Et si j'ai réussi à me mettre à l'intérieur de ce personnage, c'est-à-dire de dire finalement... C'est un personnage qui est dans quelqu'un qui assume son désir. Assumer son désir, c'est une chose énorme. Et celles qui m'ont permis de rentrer dans ce personnage de Carmen, ce sont les femmes iraniennes. Il se trouve que j'ai, un peu par hasard, rencontré ce grand mouvement Femmes, Vie, Liberté que je me suis engagée pleinement et que je continue à m'engager pour le peuple iranien et aussi pour les femmes afghanes qui vivent des situations tellement terrifiantes et que mon regard sur Carmen a aussi changé grâce à elle en fait et que le spectacle il a été fait beaucoup en pensant à ces femmes qui revendiquent aussi ce droit à libérer leur territoire intérieur.
Mmh. Et pour finir, est-ce que, comme on vous a accueilli plusieurs fois à Bourg, que vous devenez une habituée de notre théâtre, est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir d'un de vos passages ici ?
En fait, moi, c'est pas tant une anecdote qui tomberait comme ça. C'est une sensation de... Alors, je le dis pas partout, mais enfin, il y a d'autres endroits quand même, mais ici particulièrement, de bonheur, en fait, de plaisir d'être accueilli et par une équipe et par un public. Alors, il se trouve que là, au moment où on parle, en plus, le ciel est bleu, il y a une lumière magnifique, il y a quelque chose de très lumineux, en fait. Et qu'à chaque fois que je suis venue à Bourg-en-Bresse, ce que je retiens, c'est une forme de quiétude et d'engagement de l'équipe, du théâtre et du public. Et ça fait beaucoup de bien parce que je pense que ça fait partie des endroits où, quand on est une troupe, on attend d'arriver là. On attend d'arriver là parce qu'on se dit, tiens, là, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une communion. On va vraiment faire une assemblée. Et moi, je conçois le théâtre comme ça. Je pense que le théâtre, c'est encore un des rares endroits d'assemblée où on se rassemble. Avec toutes nos différences. C'est pour ça aussi que j'aime autant Shakespeare, qui est capable de mélanger tout et son contraire et de créer un monde. Et ben, au théâtre de Bourg-en-Bresse, comme dans d'autres théâtres hein, ailleurs en France, mais particulièrement ici, il y a ça, il y a cette idée de... oui, que le théâtre... C'est quoi la raison d'être du théâtre dans une ville? Et là, il y a quelque chose qui frémit. Et c'est pas vraiment une anecdote, mais j'espère que voilà, ça ne deviendra jamais une anecdote en fait. Que il faut pas que ça soit anecdotique. Oui. Voilà, c'est ma vérité. Et je pense que il faut qu'on continue à défendre ça tous ensemble. Et en tout cas, c'est toujours un bonheur.
Et c'est très beau tout ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Sandrine.
Merci.
Et si on vous parlait de ces aventures artistiques que l'on imagine entre les artistes et vous, habitants du territoire? À la scène nationale, on accueille des spectacles, des résidences d'artistes et des ateliers de pratique artistique. Et nous imaginons même, avec nos artistes complices, des aventures pour partager avec vous le processus de création. Ainsi est né le Cabaret Secret Héroïne, avec les artistes de la compagnie La Maison. Les 17 participantes inscrites, 15 femmes et 2 hommes de 16 à 66 ans, ont d'abord écrit une chanson sur la thématique héroïne et sous la houlette de l'autrice Julie Rossello-Rocher. Puis le musicien Charlie Marty a mis en musique ces textes et accompagné la mise en voix par les participantes. Enfin, le lendemain de cette interview, les participantes commençaient la mise en jeu sous le regard bienveillant de Lucie Rébéré, metteuse en scène. Ce cabaret s'est présenté le 24 mars, devant un public nombreux. Mais à cet instant, on est au cœur de l'aventure. Et qu'en disent les intéressés?
Alors, je me suis inscrite parce que... pendant des années, par ma vie professionnelle, je me suis éloignée de pratiques artistiques et que je voulais vraiment recommencer à faire une pratique musicale et expérimenter ce que je n'avais jamais fait, une pratique théâtrale. Et j'ai fait un premier atelier de lecture à voix haute qui a été conclu par une performance au sein du foyer du théâtre. Et c'était tellement génial que quand j'ai entendu parler de ce cabaret secret héroïne, j'ai sauté sur l'occasion. C'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes inconnues, nouvelles, différentes. Donc c'est très enrichissant. Et aussi de travailler avec des professionnels. Ce qui est quand même une chance inouïe et une véritable opportunité. Alors c'est vrai que j'avais un fantasme d'écriture de chansons ou de textes que j'avais jamais accompli ou j'avais jamais sauté le pas. Donc déjà là, ça oblige à le faire parce qu'on a une échéance. Je trouve aussi qu'on voit vraiment des personnalités différentes dans le résultat. Et le résultat est... Pour l'instant, là où on en est, je trouve ça hyper qualitatif. Il y a des vrais tubes en puissance et c'est surprenant et j'ai hâte de voir le résultat final. Bon, en tout cas, c'est vraiment un cocon et de bienveillance et de travail aussi. Ça donne un aperçu de la vie d'artiste et c'est que du positif en fait.
Je suis une princesse 2.0. Je m'échappe de mon château. Je suis devinée, je suis une princesse.
J'ai été convaincue par la présentation du cabaret Héroïne en janvier, qui est en fait arrivé à un moment, au moment parfait dans ma vie, parce que je venais de vivre une expérience théâtrale avec une troupe qui avait été intéressante mais m'avait pas complètement comblée à la fin de 2023. Et en fait, j'étais un petit peu frustrée de cette expérience et je souhaitais vivre autre chose. Et au mois de janvier, Gaëlle de la scène nationale est venue présenter la programmation des spectacles du premier trimestre et du deuxième trimestre 2024 à la Fabrique du Revermont, là où je travaille. Et en amont de la présentation des spectacles, a présenté ce cabaret Héroïne en quelques mots. Et il m'a tout de suite persuadée d'y consacrer du temps et d'investir un peu de moi, parce que c'était une création, en tout cas j'avais l'impression que ça allait être une création très intense, donc sur peu de temps, finalement sur 3 ou 4 week-ends, qui touche à beaucoup d'arts différents, de l'écriture, avant même l'écriture en fait il y a une réflexion, une grosse introspection qui me paraissait intéressante, mais de l'écriture théâtralisée, de la musique, de la mise en musique, chose que je n'avais jamais faite, et ensuite de la mise en scène. Et je trouvais ça assez passionnant de me dire que j'allais pouvoir être présente et participante de A à Z à une création artistique qui ensuite terminerait sur des planches devant un public. Donc voilà, j'avais hâte de vivre ça en plus en collectif sur la thématique magnifique qu'est les héroïnes.
Je suis plus aujourd'hui créateur, et donc cette démarche de création, je la connais déjà à travers mon métier qui est de dessiner des meubles, de concevoir des choses. Et du coup, j'étais assez à l'aise là-dedans parce que j'avais confiance en moi au début dans l'écriture. J'étais complètement perdu. Je savais pas. En fait, j'avais des idées. Je savais ce que je voulais faire. J'avais une idée, mais je savais pas formellement comment le traduire, puisque effectivement le chant c'est pas, et l'écriture c'est pas du tout un domaine que je maîtrise. Et du coup, ben j'ai réussi en ayant confiance, en me disant, et c'est venu d'un coup en fait. Donc le processus créatif, c'est prendre les choses en soi, les moudre, en faire quelque chose, les remuer, puis ça sort à un moment donné. Donc j'ai eu confiance, je me suis dit ça va venir, ça viendra, tu sais, tu te nourris de plein de choses, et finalement ben j'ai réussi à pondre ce truc en comme ça. La deuxième journée, je savais pas du tout ce que je voulais faire et c'est sorti comme ça d'un coup. Donc, le processus créatif, je trouve que finalement, dans quel que soit le domaine, il est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on prend des éléments, on se nourrit et puis ça fait son chemin. Et ça, il faut avoir confiance en soi. Et du coup, en plus, là, c'est bien mené parce qu'il y a des gens hyper compétents et qui nous ont mis bien à l'aise. Et c'est chouette. Et là, plus particulièrement, on a fait quand même 2 séances d'écriture. Et là, on passe au chant. Et là, waouh, c'est assez fou, quoi. C'est un autre step, quoi. Le texte prend de la légèreté. Alors bon, il va falloir chanter, c'est pas un exercice facile, mais c'est plaisant en tout cas. Et puis du coup, je sais pas, je trouve qu'on a peur de rien finalement. Enfin, le petit groupe qui s'est créé, tout ça là, on est fédéré, c'est drôle, quoi. Tout le monde s'aide. Tout à l'heure, moi je chantais, je piétinais sur un truc. Y a Cécile qui est venue m'aider. Enfin voilà, elle est venue derrière moi. Enfin, je sais pas, c'est chouette. C'est vraiment une superbe aventure. Vraiment, je suis très content d'y participer et de partager avec vous cette aventure.
Blanche, absence de respiration, cheveux, lumière, première inspiration.
La même approche que lorsque j'ai commencé cet atelier, où en fait au début je voyais que la fin en soi du spectacle, où je me disais oh là là, on va monter sur scène, il va y avoir un public, ça fait longtemps que je peux monter sur scène. À l'époque, quand je faisais de la musique au conservatoire, ça a eu lieu, mais ça faisait des années, et donc je m'étais un peu inscrite dans l'optique de monter sur scène à la fin, et j'ai commencé à inviter des copains, mes parents à venir me voir sur scène avant même de savoir ce que j'allais créer. Et finalement, au bout de 2 ateliers d'écriture, j'ai déconstruit ça, où je me disais en fait je veux plus écrire pour les personnes qui vont venir me voir le jour du spectacle, j'ai envie d'écrire pour moi. Et là, ça a un peu complètement changé ma vision de voir l'atelier, et aujourd'hui je me dis, mais si demain pour quelle que soit la raison on annule le spectacle, mais en fait je serais déjà tellement satisfaite et heureuse et complète par ce qu'on a fait, que le spectacle c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais l'expérience humaine et musicale et artistique et d'écriture qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est déjà assez et c'est superbe.
Ben, déjà, il y a eu la première étape du travail d'écriture qui était vraiment très, très intéressante parce que Julie Rosset-Lorochet nous a accompagnés, nous a écoutés, nous a aidés en fait dans notre cheminement. Et là, maintenant, on est avec Charlie Marty et qui a vraiment fourni un travail d'interprétation de notre texte, de nos textes, ce qui fait que lorsqu'il nous les a chantés pour la première fois, du coup, on a pu entendre autre chose des textes des uns et des autres. Donc ça, c'est chouette, parce que le travail d'interprétation, ça amène de la subjectivité, ça ouvre d'autres portes. Voilà, parce que nous, dans le travail d'écriture, on a ouvert des portes. Et là, avec le travail d'interprétation musicale, ça ouvre encore d'autres portes. Et du coup, on s'écoute tous chanter, répéter. Et en fait, on est au-delà de la simple rencontre dans un travail d'atelier. C'est-à-dire qu'on apprend aussi à se connaître.
J'en sors chamboulée après chaque répétition, après chaque atelier. J'en ressors et j'ai toujours un petit temps de conduite d'une demi-heure avant de rentrer à la maison ou avec d'autres participantes de l'atelier ou seule. Et c'est un vrai temps où on digère ce qu'on vient de vivre. Et je me rends compte à chaque fois que j'essaye d'expliquer ce qu'on vit, comme c'est dur de trouver des mots pour décrire en fait, parce que c'est ultra humain, c'est ultra fort, c'est quelque chose que je trouve incomparable à quoi que ce soit que j'ai vécu.
Je m'en vais conquérir le monde.
Et vous alors ? On s'allonge et on se dit tout. En lien avec notre thématique, Lysiane est allée interroger quelques membres de l'équipe du théâtre. Quelle était votre héroïne d'enfance ? Quelle mémoire gardez-vous d'une figure féminine inspirante dans votre jeunesse ?
La seule qui me vienne comme ça et qui est très décriée, c'est Wonder Woman. Mais j'avais pas plus de héros. Pas plus de héros que d'héroïnes. Et je pense que c'était plus par les gens du quotidien qui pouvaient m'inspirer. Comme beaucoup de gens, je pense, je vais dire ma mère. Et des gens que j'ai pas connus, des ancêtres dans ma famille, des figures comme ça un peu familiales.
Wonder Woman, okay. Hyper facile. Trop balèze. Le fouet et tout, c'est trop bien, quoi. Après, dans le monde des humains, ma grand-mère, elle était polonaise, elle s'est mariée à 15 ans. Et après, son mari, il voulait pas qu'elle travaille. Donc, elle a travaillé en cachette. Elle a passé son permis en cachette. Et c'est balèze, non ?
Je pense aux Cat Size, qui étaient trois sœurs qui tenaient un restaurant, je crois, le jour, mais la nuit, qui devenaient des justicières et qui allaient voler les riches pour donner aux pauvres. Enfin, dans mon souvenir, c'est ça, en tout cas. Et elles étaient belles et fortes, elles étaient super fortes.
La sœur de ma mère, qui était sœur, qui est devenue sœur ouvrière, qui a résisté au patronat, une syndicaliste, et qui a guidé beaucoup de choses dans ma vie et... avec qui j'ai eu une relation très spécifique, très spéciale.
Comme beaucoup de ma génération liée au dessin animé, comme les Wonder Woman, où il y a Catwoman aussi, il y a Batgirl, en fait tous les penchants féminins des héros qu'on connaît, de DC Comics à Marvel, et aussi du côté plutôt religion catholique. Sœur Marie-Thérèse, j'en ai beaucoup entendu parler, et de son histoire, j'ai compris que je pouvais faire un lien avec aussi les héroïnes de dessins animés.
Je pense plus à des personnages de dessins animés, de princesses, de Zora Larousse, qui vraiment, pour moi, étaient des personnages que j'admirais. Je me disais, qu'est-ce que j'aimerais être comme elle ?
Alors, pour le côté un peu imaginaire, mon héroïne, on va dire, préférée, c'était Shirazad, parce que, tout simplement, elle a réussi à sauver tout un tas de femmes, grâce à des histoires. Et je trouve ça assez magique. Et moi, les histoires, elles m'ont sauvée de plein de situations et de moments un peu durs aussi. Donc, du coup, je me suis vraiment identifiée à Sherazade. Et la deuxième personne, du coup, réelle, c'est ma grand-mère. Parce que ma grand-mère était malvoyante. Et pour moi, elle a accompli tellement de choses malgré son handicap qu'aujourd'hui, c'est toujours mon héroïne de cœur et de vie. Donc.
Dans l'enfance, tu vois les choses, tout est héros, héroïne, que ce soit, il n'y a pas de différence vraiment. Les figures de l'héroïsme féminine, elles sont arrivées plus tard en fait. La notion de héros, c'est quelque chose qu'on nous inculque plus tard en fait. Au début, on est un peu tous des êtres humains et on n'est pas là à se dire quelle est notre force, notre implication, notre place dans la société ou les uns envers les autres. Au début, on est tous sur une échelle d'égalité.
Quand j'étais enfant, je regardais beaucoup de dessins animés et un dessin animé qui m'a marqué, c'est Mulan. Cette femme guerrière qui avait à l'origine un destin tout tracé de fille dévouée qui devait se marier pour rendre hommage à sa famille et à la royauté, tu vois, bah, au final elle a choisi son destin et c'est cette femme guerrière qui du coup pour moi a marqué mon enfance.
On a été ravis de pouvoir traverser avec vous cette thématique sur les héroïnes. On a pu découvrir des artistes incroyables, des spectacles qui nous ont fait frissonner, qui nous ont fait nous questionner. Et on va pouvoir maintenant commencer la nouvelle thématique qui est celle des migrations qui va se dérouler de mai à juillet 2024.
Attends, mais on n'a quand même pas tout dit sur les héroïnes. On peut pas finir comme ça.
Attends, ça veut dire que c'est pas fini.
On a concocté un petit week-end autour des héroïnes du 12 au 14 avril avec... trois spectacles, un atelier, une émission radio en public. Il va être question de guerrières, d'héroïnes mythiques, d'amantes passionnées. On va questionner l'expérience de la maternité. On va découvrir la trajectoire incroyable d'Albertine Sarrazin. Et on va finir le dimanche avec une émission radio en public avec les metteuses en scène de Marguerite L'Enchantement et de Sarrazine avec Sophia Aram.
La conclusion, c'est qu'on n'en a jamais fini avec les héroïnes.
Et pour plus d'informations sur le temps fort en manque d'héroïnes, rendez-vous sur notre site internet www.théâtre-bourque.fr.
Retrouvez donc Radio B et la scène nationale le 14 avril à 11h au théâtre. Ou rendez-vous dans 2 mois pour le prochain podcast sur la commode sur la thématique migration. Toujours sur vos bonnes ondes. Et pour toutes nos actualités, rendez-vous sur la toile www.théâtre-bourque.fr, Facebook et Instagram.